Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique histoire. Aujourd'hui, nous faisons encore un bond dans le temps pour atterrir en 1789, en pleine révolution. Cette époque que vous connaissez tous semble soudaine et sortie de nulle part, alors qu'en réalité, cette situation est la conséquence de nombreuses erreurs de la couronne, qu'elles soient économiques, militaires ou encore sociales. Alors avant d'arriver à cette tragique nuit du 14 juillet 1789, nous allons survoler ensemble la période pré-révolutionnaire et tenter de comprendre les raisons de ce soulèvement qui s'est rapidement transformé en insurrection. Louis XVI, dit le dernier, monte sur le trône de France et de Navarre le 10 mai 1774, soit environ 25 ans avant la Révolution. Après son accession au pouvoir, le dernier roi de France récupère un royaume endetté et militairement très affaibli, à tel point que la France s'éloigne davantage de sa place de première puissance mondiale. Au milieu du XVIIIe siècle, la France est déjà en crise. Et cette situation n'a eu de cesse de s'aggraver sous Louis XVI. Première question, qu'est-ce qui a marqué le déclin du régime et la montée de la colère ?
La première fissure du régime émane de la guerre de 7 ans. Elle se déroule de 1756 à 1763. Ce fut un conflit majeur de l'histoire de l'Europe, le premier qui puisse être qualifié de guerre mondiale ou à minima de guerre mondialisée, en raison du grand nombre de belligérants. Car la guerre ne s'est pas uniquement portée sur l'Europe, mais aussi sur l'Amérique du Nord, en Asie et en Afrique. D'ailleurs, voici le jeu d'alliance avec les membres principaux. La France, alliée de l'Autriche, face à la Grande-Bretagne, alliée de la Prusse. De nombreux autres pays européens participent cependant à cette guerre, notamment l'Empire russe aux côtés de l'Autriche et le Royaume d'Espagne aux côtés de la France. À noter que même l'Inde était de la partie sous le nom à l'époque de l'Empire Moghol. On va donc devoir parler de cette guerre et de ses conséquences. D'abord prenons connaissance des forces en présence. La première alliance comporte 200 000 soldats pour la France, 200 000 pour l'Autriche, 330 000 pour la Russie et 45 000 pour l'Espagne, alors que de l'autre côté, la Prusse possède 145 000 hommes, la Grande-Bretagne 90 000 et le Portugal 10 000. On va voir donc ici une énorme différence en termes de puissance militaire pure. Ces chiffres sont les comptes au début de la guerre. D'autres soldats ont par la suite rejoint le conflit. En tout, il y aurait eu environ 800 000 civils tués pour 1 300 000 morts au total. Un an seulement après le début de la guerre, la France parvient à conquérir la région germaine d'Hanovre et se retrouve aux portes de la Prusse. Avec ses alliés autrichiens, la France lance une offensive en territoire ennemi, mais les alliés tombent sur le stratège ultime de la Prusse, Frédéric II. Avec une armée deux fois inférieure, le Prussien repousse ses assaillants.
Quelques semaines plus tard, rebelote. Frédéric II renvoie les Autrichiens chez eux et dans le même temps, la Grande-Bretagne essaye d'affaiblir la France à travers de multiples attaques côtières. La plus connue reste celle de Saint-Malo, où 40 000 Anglais débarquent en France. Le combat fut terrible pour les Britanniques, puisqu'ils ont subi un revers face à seulement 7 000 Français. L'année suivante, les Anglais s'attaquent aux colonies françaises en Afrique, donnant la sympathique idée à la France d'envahir la Grande-Bretagne avec 100 000 hommes. Mais face à eux, la Royal Navy. Les Français font finalement marche arrière, la flotte française finit annihilée. Sans flotte, la France ne peut appuyer ses colonies, laissant les Anglais s'en emparer. La France avait perdu la région d'Hanovre et a essayé à de multiples fois de la récupérer en vain. Malgré les balafres et les nombreuses déroutes, la France et l'Autriche sont sur le point de vaincre la Prusse. Mais en 1762, la tsarine Élisabeth meurt, laissant place à Pierre III, un grand admirateur de la Prusse. Conséquence, la Russie, très grands alliés de la France et de l'Autriche, se retire et la Prusse parvient à repousser les Autrichiens.
La même année, éprouvée par des années de guerre, les puissances européennes commencent des négociations de paix. La France y perd presque toutes ses colonies, cela réduit les entrées d'argent et pire encore, la couronne se voit dans l'obligation d'augmenter les taxes. Voici donc la première raison, la montée de la colère des citoyens.
Autre point, et pas des moindres, concerne Marie-Antoinette, la dernière reine de France. Le peuple la surnommait la mal-aimée, puisqu'elle était dépensière et frivole, ce qui aggrave la situation économique ainsi que son impopularité qui ne cessait de croître. Elle refuse par exemple de se plier aux obligations d'une reine, elle déteste la vie de la cour et s'ennuie à la table. Sa mère, Marie-Thérèse, la conseille avec prudence et modération pour éviter qu'elle ne plonge dans l'abîme. Quand le peuple criait famine, elle leur répondit de manière très moqueuse « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Et la dernière raison qui a amené à la Révolution, ce sont les Lumières. À l'époque, la publication de leurs travaux, de leurs raisonnements, était prohibée. C'est donc sous le manteau, dans les bars ou dans les coins de rue, que leurs écrits se sont d'abord propagés. Petit à petit, une bonne partie des Français sachant lire avaient pris connaissance de ces écrits. Le roi Louis XVI avait conscience de cette propagation, mais restait sourd quant à tout cela, et sans le savoir, il laissait alors ses ennemis compromettre son avenir. Alors pour en citer quelques-uns, voici les membres français les plus connus du mouvement des Lumières. On retrouve par exemple Denis Diderot, Olympe de Gouges, le marquis de Lafayette, Antoine Laurent de Lavoisier, le marquis de Sade, Marivaux, Montesquieu ou encore le très célèbre Voltaire. Maintenant que les raisons de cette colère ont été en partie expliquées, passons à la deuxième question. Quel a été l'élément déclencheur de la Révolution ?
Plusieurs événements peuvent être considérés en tant que tels, mais pour commencer, rendons-nous le 5 mai 1789 à Versailles. C'est l'ouverture des États généraux. Vous savez, les États généraux, c'était une assemblée des représentants des trois ordres de la société française, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Ils ont été convoqués pour résoudre la crise financière du royaume et pour discuter de réformes. Cela a conduit à la Révolution française, notamment après que le tiers-État se soit proclamé Assemblée nationale, marquant le début d'un bouleversement politique majeur.
Et après les États généraux, il y a eu le serment du jeu de pommes le 20 juin 1789. Alors après avoir été empêchés d'entrer dans leur salle de réunion par le roi Louis XVI, les membres du tiers-État, principalement des représentants du peuple, se sont réunis dans une salle de jeu de pommes à Versailles. Là, ils ont prêté serment de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une nouvelle constitution pour la France. Ce serment marquait leur refus de la politique royale et de leur volonté de représenter la souveraineté nationale. Il a été un acte fondamental dans le déclenchement de la Révolution, car il symbolisait l'affirmation du pouvoir du peuple contre l'autorité absolue du roi.
À peine trois semaines après le serment du jeu de paume, la tension est à son paroxysme et le 11 juillet 1789, Louis XVI renvoie plusieurs ministres, dont Jacques Necker. Aujourd'hui, il serait le ministre de l'économie. Un rôle important dans un royaume en pleine faillite. C'est lui qui avait convoqué les états généraux d'ailleurs, et au même moment, Louis XVI a appelé les armées étrangères d'Allemagne et de Prusse pour se protéger, et les armées filent en direction des Tuileries. Et on peut dire que c'est l'étincelle qui a fini de mettre le feu aux poudres pour les révolutionnaires. Le 13 juillet, les Parisiens se soulèvent et cherchent des armes. Et dans la nuit du 13 au 14 juillet, ils pillent les Invalides, prennent canons, fusils et tout ce qui peut servir d'armes. Les Parisiens assiègent la Bastille toute la nuit, et s'empare de la poudre à canon présente dans la forteresse de la Bastille. On estime qu'il y a eu environ 100 à 200 morts. Ce chiffre inclut à la fois les civils qui faisaient partie des insurgés parisiens et les soldats qui défendaient la Bastille. Le gouverneur de la Bastille, le marquis de Launay, a d'ailleurs été décapité après avoir capitulé. Un an après, le 14 juillet 1790, c'est la fête de la Fédération. La Bastille a été totalement rasée et les Parisiens dansent sur le Champ de Mars. La forteresse de la Bastille a été construite de 1370 à 1383. Elle a été construite par les ordres de Charles V et est devenue une prison sous Louis XI. Une prison pour les opposants à la monarchie. On peut dire que la Bastille, c'était un symbole de la monarchie absolue. Et parmi ses prisonniers les plus célèbres, on a eu Montaigne, l'homme au masque de fer, Nicolas Fouquet, le duc de Richelieu ou encore le marquis de Sade qui a été emprisonné quelques jours avant la prise de la Bastille. Mais pourquoi la prise de la Bastille est devenue un tel symbole alors qu'il n'y avait à l'intérieur que 7 prisonniers enfermés ?
L'été 1789 restera gravé dans l'histoire comme celui de la panique généralisée qui s'empara des campagnes françaises, la Grande Peur, du 22 juillet au 6 août. Dans un pays déjà secoué par la prise de la Bastille et l'effondrement progressif de l'autorité royale, la tension monte d'un cran, le peuple affamé et inquiet craint le pire, tout commence par des rumeurs. On murmure que les nobles furieux de perdre leur pouvoir auraient recruté des brigands pour ravager les récoltes et soumettre les paysans. À cela s'ajoute la misère d'une population qui souffre des mauvaises récoltes et la flambée du prix du pain. En l'absence de structures d'information fiables, la peur se propage aussi vite que le vent, portée par des messagers à cheval et des cloches d'église sonnant l'alarme. Bientôt, la panique gagne tout le pays. Aux quatre coins du royaume, les paysans s'arment, dressent des barricades, guettent des ennemis invisibles. Mais ne voyant aucun brigand venir, leur colère se détourne vers une cible bien réelle. Les châteaux, les seigneuries deviennent le symbole de l'oppression. Partout, on incendie les registres féodaux, ces précieux documents qui consignent les droits seigneuriaux.
Certains nobles prennent la fuite, d'autres tentent de négocier avec la foule, mais le message est clair. L'ordre ancien vacille sous les assauts du peuple. Face à ce déferlement de colère, l'Assemblée nationale doit réagir. Dans la nuit du 4 août 1789, une décision historique est prise, l'abolition des privilèges et des droits féodaux. En un instant, des siècles de domination seigneuriale s'effondrent. La peur a accéléré l'histoire. Ainsi, ce qui n'aurait peut-être pu être qu'une crise passagère devient un tournant décisif de la Révolution française. La Grande Peur n'a pas seulement révélé l'ampleur du désespoir paysan, elle a aussi précipité la fin de l'Ancien Régime, ce vent de panique, né de rumeurs et d'incertitudes, aura finalement ouvert la voie à une société nouvelle, débarrassée des chaînes du féodalisme. Une fois l'abolition des privilèges et des droits féodaux appliqués, le 26 août marque une journée qui restera et qui reste d'ailleurs marquée dans l'histoire de France, c'est la rédaction et l'adoption de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 5 députés sont chargés d'examiner toutes les propositions pour la rédiger au mieux. Les 5 valeureux députés sont Démenier, La Luzerne, Tronchet, Mirabeau et Redon. Le texte est voté du 20 au 26 août et à l'issue de ce vote, c'est un préambule et 17 articles qui en ressortent. Le 5 octobre 1789, Louis XVI est contraint de valider la DDHC et la Constitution qui seront appliquées jusqu'au 22 septembre 1792 avec la création de la Première République.
Alors que le peuple croit toujours à la monarchie et sait crier « Vive le roi !», Louis XVI possède une place importante et le système monarchique n'est pas contesté, de même que pour sa figure royale, qui n'est encore que très peu attaquée. Malgré cela, Louis XVI, la reine Marie-Antoinette et leur famille immédiate tentèrent de rejoindre le bastion royaliste de Montmédy, à partir duquel le roi espérait lancer une contre-révolution. Les 20 et 21 juin 1791 sont des dates clés de la révolution, car c'est à ce moment-là que Louis XVI est retrouvé à Varennes. Alors il rompt les liens symboliques unissant le roi à la nation, précipite la désacralisation de sa personne royale et le renversement de l'opinion à son égard, et relance enfin la crainte du complot intérieur préparant l'évasion, provoquant une série de lois d'urgence qui préfigurent la terreur. Le plan aurait très bien pu se passer. Les premières traces de préparation de la fuite datent de septembre 1790. Il semble que le plan initial ait été porté par l'évêque de Pamiers, Joseph Mathieu d'Agoult. Sortir de sa prison des Tuileries et se retirer dans une place frontière dépendant du commandement de Monsieur Bouillet. Là, le roi réunirait ses troupes, ainsi que ceux de ses sujets qui lui étaient restés fidèles et chercherait à ramener le reste de son peuple égaré par des factieux. Seulement, si ce plan échouait, le recours aux alliés, c'est-à-dire à l'empereur du Saint-Empire, Léopold II d'Autriche, frère de Marie-Antoinette, était envisagé. Le grand responsable de cet échec n'est nul autre que le duc de Choiseul. Ce dernier n'a pas d'une part respecté les directives de Bouillet, et a de plus désorganisé le plan initial. Ainsi, il a autorisé des officiers à quitter leur poste en raison du retard du cortège royal. Pour ce faire, il a confié ses instructions au coiffeur de la reine, Léonard, qui les appliqua avec beaucoup trop de zèle. Sans cela, et selon les mots de Napoléon plus tard, passionné par l'événement, la face du monde aurait été changée. Le 3 septembre 1791, la nouvelle constitution est adoptée. Louis XVI l'accepte le 14 septembre, lui jure fidélité, et fait passer la France d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Cette constitution abolit la notion de droit divin qui donnait au roi un pouvoir absolu sur la France. Le roi doit dorénavant prêter serment devant la nation, jurant de maintenir en place la constitution et de l'appliquer. Il porte maintenant le titre de roi des Français, sa fonction reste héréditaire et il devient le chef d'un gouvernement de 6 ministres qu'il nomme ou révoque, mais qui sont responsables devant l'Assemblée nationale législative. Sa charge est d'administrer le pays, de nommer certains hauts fonctionnaires et de représenter la nation vis-à-vis de l'étranger. Enfin, il partage avec l'Assemblée le pouvoir de déclarer ou faire cesser une guerre, bien que la personne du roi soit définie comme inviolable et sacrée. La Constitution prévoit des cas où il peut être déchu de ses fonctions par l'Assemblée.
Comment évoquer la Révolution française sans parler du 10 août 1792 et l'historique prise du palais des Tuileries qui marque une des journées les plus décisives de la Révolution après la prise de la Bastille. Paris, 10 août 1792. L'aube se lève sur une capitale en ébullition. Depuis plusieurs jours, la tension est palpable. Les sections parisiennes grondent, la commune s'organise et la colère populaire monte contre un roi perçu comme un traître. La menace autrichienne aux frontières et la défiance grandissante envers Louis XVI ont scellé le sort de la monarchie. Ce matin, l'histoire bascule. Dès les premières heures du jour, une marée humaine envahit les rues menant au palais des Tuileries. Des milliers de sans-culottes, de fédérés marseillais et de gardes nationaux convergent vers la résidence royale, bien décidés à en finir avec le pouvoir du roi. Face à eux, environ un millier de gardes suisses, disciplinés et armés, se tiennent prêts à défendre le palais. les premiers coups de feu éclatent, les gardes suisses ripostent aux assauts des insurgés, semant la confusion et la panique. Mais bientôt, la garde nationale, initialement indécise, se range du côté du peuple. L'assemblée ordonne aux Suisses de déposer les armes, mais le tumulte empêche tout repli ordonné. Le combat tourne rapidement au massacre, traqués dans les couloirs du palais, les défenseurs royaux sont exterminés. Certains tentent de fuir, mais sont rattrapés par la fureur révolutionnaire. La monarchie est à genoux. Dans les rangs des insurgés, il y avait des fédérés marseillais, environ 2000 hommes, qui entonnaient une chanson qui sera adoptée par la foule parisienne et baptisée la Marseillaise. Et oui, notre hymne national rédigé par Rouget de Lille a connu ses premières heures de gloire en 1792.
Et le 20 septembre 1792 débute la bataille de Valmy. Depuis la déclaration de guerre de l'Assemblée nationale législative à l'empereur du Saint-Empire François II, le ciel est rouge et l'orage gronde. Devant les échecs français, certaines unités assassinent leurs officiers et se dispersent. Les forces anti- ou contre-révolutionnaires menacent la France. Une armée de 150 000 hommes formée d'une combinaison de troupes de Prusse, d'Autriche et de Hesse-Cassel, à laquelle se joint 20 000 immigrés, s'avance contre la France sur toutes ses frontières, de Dunkerque à la Suisse. À 3 heures du matin, les Prussiens et les Autrichiens sont déjà en mouvement et bientôt, l'avant-garde prussienne rencontre celle du général Kellermann. Jusque vers 7 heures du matin, un brouillard épais empêche les deux armées de connaître leurs positions respectives. Lorsqu'il se dissipe un peu, l'artillerie commence à tirer de part et d'autre. Le duc de Brunswick, voyant que le feu de son artillerie n'a pas réussi à ébranler les troupes françaises, veut essayer une attaque de vive force. Vers les 11 heures, le feu de ses batteries redouble. Il forme trois colonnes d'attaque soutenues par la cavalerie. Les deux colonnes de gauche se dirigent sur le moulin de Valmy, la droite se tenant à distance. Ces attaques en ordre oblique sont la tactique habituelle des Prussiens. Le feu continue jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Encore une fois, l'ennemi reforme ses colonnes et essaye une nouvelle attaque. Mais la bonne contenance de l'armée française, son ardeur manifestée par de nouveaux cris, suffisent à l'arrêter une seconde fois. Vers 7 heures du soir, les coalisés regagnent leur première position, laissant aux Français le champ de bataille. La bataille est marquée surtout par une intense canonnade. Les 36 canons français tirent 20 000 boulets. Les deux armées ont assisté à la bataille sans vraiment y prendre part. Puis la retraite des Prussiens étonne bien des observateurs, car en effet, quelques jours plus tôt, l'invasion de la Pologne par la Russie et l'Autriche a commencé. Or, la Prusse a besoin de son armée pour participer au partage. Les suppositions fusent donc. Le duc de Brunswick n'aurait-il pas été acheté par Georges Danton avec les diamants de la couronne royale de France, volés 4 jours plus tôt aux gardes-meubles de la couronne? On envisage ainsi une négociation entre Dumouriez, Brunswick, voire un accord entre le général Kellermann et le duc Brunswick, tous deux de la même obédience maçonnique.
Et RTM a une nouvelle fois la chance de recevoir Louis qui va nous apporter quelques précisions sur le sujet. Et pour commencer, je te souhaite une bienvenue sur RTM.
Bonjour, merci de me recevoir pour cette troisième fois si je ne me trompe pas.
En première question donc, qui peut être intéressante, ça aurait été de savoir quelle a été la réaction des rois et des autres régimes autour de la France.
Plutôt se concentrer sur les voisins directs, l'ennemi héréditaire déjà la Grande-Bretagne. Donc c'est le roi George III qui était au pouvoir. Au début, il était un peu neutre dans le sens où en fait ça les arrangeait plutôt qu'il y ait de l'instabilité en France, puisque eux continuent leur commerce, ils continuent de devenir de plus en plus puissants alors que la France s'affaiblit par ses conflits internes. Par contre, à partir du moment où Louis XVI a été décapité, les Anglais ont commencé à rentrer dans les coalitions et à les financer. Du côté de la Prusse, directement, avec Frédéric Guillaume II, ils se sont mis dans la coalition. Et en fait, c'est le cas de la majorité des pays voisins, comme l'Autriche, l'empereur Léopold II, qui était le frère de Marie-Antoinette, qui, eux, pour le coup, tout de suite, avec les liens familiaux entre la reine et l'empereur, ont été même les avant-gardistes de la réaction. Dehors la fuite à Varennes, le roi était censé aller se réfugier en Autriche. Il y a l'Espagne aussi qui, alors plus tard, vont être nos alliés, mais avec Charles IV, va rejoindre la coalition contre nous. Et alors Catherine II, là, pour la Russie, c'est carrément... Elle a exprimé son horreur, c'est le mot qu'elle a employé, son horreur face aux événements qui ont lieu en France. Globalement, la réaction de tous les monarques, c'était de se dire si le peuple se soulève contre le roi en France, il pourrait le faire contre moi dans mon pays aussi. Donc les monarques ont vraiment essayé de réprimer la révolution en France.
Autre question, ça serait un petit peu sur l'identité des révolutionnaires. En fait, si on essaye de s'imaginer qui étaient vraiment les révolutionnaires, c'était le tiers-état, la bourgeoisie ou une certaine caste de personnes en particulier?
La bourgeoisie fait partie du tiers-état, donc oui, globalement, on peut dire que c'est le tiers-état, même s'il y a des nobles qui ont pris part, il y a des clercs qui ont pris part, il y a les philosophes des Lumières dont vous avez parlé plus tôt aussi, avec des Voltaire, Rousseau, Montesquieu. D'ailleurs, je crois que c'est à propos de Montesquieu que Napoléon disait « Si Montesquieu n'avait jamais existé, Napoléon non plus », pour montrer l'influence que ça a eu au-delà de la Révolution. Alors, les révolutionnaires, c'était divisé en plusieurs groupes. Il y avait notamment les Jacobins, qui étaient les plus radicaux. C'est ceux qui ont été aux commandes pendant la Terreur, et dont Maximilien de Robespierre était le dirigeant. Il y a eu les Girondins, qui étaient quand même plus modérés, et qui, eux, étaient pour une monarchie constitutionnelle, et qui entraient quand même souvent avec les Jacobins, en conflit avec les Jacobins, alors qu'ils étaient révolutionnaires tous les deux. Puis enfin, il y a les sans-culottes, qui représentent la classe urbaine. Ça pouvait être des artisans, des ouvriers ou des petits commerçants, qui étaient très actifs dans les mouvements, notamment la prise de la Bastille. Après, la Révolution et les révolutionnaires, ça a quand même beaucoup été présenté comme le peuple. En réalité, la majorité du peuple était du côté du roi, ça, c'est une réalité. Maintenant, ça reflète quand même l'histoire politique française où les villes, surtout Paris, étaient donc, de ce côté de la Révolution. Ça, je pense qu'à Paris, c'est très difficile de le nier. Par contre, la France, dans sa globalité, je pense qu'elle est restée quand même du côté du roi. J'irai pas jusqu'à dire que la Révolution, c'est un petit délire de bourgeois parisiens, mais c'est vrai que les bourgeois ont fait passer ça pour une révolte populaire, pour au final s'accaparer le pouvoir, et les régimes suivants, notamment le Directoire, ont montré que la République et la Révolution, au final, n'étaient pas mieux, voire pire, pour le petit peuple.
Concernant les événements marquants, quel a été justement le plus marquant de tous ces événements entre 1989 et la Grande Terreur ?
Je dirais quand même 1789, parce que même si la Grande Terreur, ça c'est, je pense, peut-être le pire épisode de l'histoire de France, ça reste interne. Ça reste interne au pays, alors que 1789 a changé la face de la France et la face du monde complètement. C'est-à-dire que déjà on rompt avec l'Ancien Régime, ce qui va entraîner des vagues successives de révolutions dans toute l'Europe. Ça a changé le fait surtout d'exécuter le roi, ça a changé la psychologie des peuples vis-à-vis des monarchies, ça a causé des guerres terribles, hein, les guerres de la coalition, qu'on appelle plus globalement les guerres napoléoniennes. C'est des guerres défensives, hein, on dépeint souvent Napoléon comme un tyran sanguinaire. Je rappelle que tout au mieux, il y a deux campagnes qui sont offensives, et encore, il y a des raisons derrière. Faut rappeler quand même que ce qu'a fait Napoléon après ça, c'est l'épisode de la semaine prochaine, donc on va pas trop en dire non plus, mais c'est des guerres défensives. La France s'est défendue. Également, 1789, c'est, pour le dire simplement, la fin d'un ancien monde et le début d'un nouveau, pour le meilleur ou pour le pire.
Quelle a été, justement, au fur et à mesure, la place qu'a occupée Louis XVI au cours de la Révolution? La monarchie constitutionnelle, il a été déchu, il a été exécuté plus tard.
Au début de la Révolution, ça reste un monarque absolu. Il convoque, avec Jacques Necker, comme vous l'avez dit, les états généraux. Il y a ce serment du jeu de paume, il y a la prise de la Bastille, et il y a Louis XVI qui renonce à son pouvoir absolu, qui reconnaît la Constitution, donc de facto, ça devient un monarque constitutionnel. Donc monarque absolu, puis monarque constitutionnel. Malheureusement, il s'enfuit, et à partir de sa fuite, c'est le début de la fin, si on peut dire, notamment quand l'Autriche et la Prusse menace de bombarder Paris à coups d'artillerie si Louis XVI n'est pas libéré. Ça va produire l'effet contraire, il va être jugé puis exécuté. D'ailleurs, dans son procès, ce qui est intéressant, c'était un homme complètement paniqué, qui disait tout et son contraire, qui donnait une excuse le matin et puis qui en donnait une autre l'après-midi. C'est vraiment, je pense qu'il a juste été dépassé par les événements et qu'il avait peur de mourir. Mais sa place, globalement, a été juste de moins en moins importante, même si il faut reconnaître qu'au début, il y a une volonté de le garder au centre.
Et dernière question, durant cette révolution, quels ont été les personnages principaux, les protagonistes un petit peu du rouage révolutionnaire ?
Or, il y en a eu beaucoup, il y en a eu en politique, il y en a eu sur le plan militaire. Il y a bien évidemment Robespierre, qui doit être le plus connu, Jean-Paul Marat, très connu également. D'ailleurs, pour l'anecdote, celle qui a assassiné Jean-Paul Marat a fait la route à pied depuis la Normandie juste pour l'assassiner. Comme quoi, quand tout à l'heure je parlais de sentiments contre-révolutionnaires et pro-royalistes, si des gens ont la volonté de faire le chemin à pied de Rouen jusqu'à Paris pour assassiner l'auteur d'un journal révolutionnaire, c'est une certaine forme d'indication. Il y a Georges Danton qui d'ailleurs va être décapité par Robespierre. Un personnage très important, je pense, le plus important parmi les méconnus, ça c'est une formule que j'aime bien, c'est l'abbé Sieyès, qui tout au long de la Révolution et jusqu'à l'Empire va être un personnage central, et je trouve qu'il est très sous-représenté dans les programmes scolaires, malheureusement. Il y a pour les femmes, bien évidemment, Olympe de Gouges, Louis-Antoine de Saint-Just, qui a été membre du comité de salut public, et Camille Desmoulins, notamment également à citer. Les Lumières ont moins joué de rôle dans les gouvernements républicains, et ça, ce sont quand même les grandes figures de la Révolution.
Et un grand merci à Louis pour ses explications passionnantes. Nous allons reprendre notre récit, et c'est reparti.
La France, dans un tourbillon de bouleversements sociaux et politiques, se trouve face à un choix crucial, juger son ancien roi Louis XVI ou bien l'abandonner à l'histoire comme une simple victime du destin. Le 11 décembre, un tribunal exceptionnel est mis en place, la Convention nationale. C'est là que commence le procès de Louis XVI. L'histoire du procès est marquée par les débats passionnés entre les députés qui se divisent en deux camps. Les Girondins, qui cherchent à sauver la vie du roi, et les Montagnards, plus radicaux, qui réclament la mort. Les Girondins, majoritairement modérés, estiment que le roi peut encore jouer un rôle dans une France républicaine, mais ils se trouvent de plus en plus isolés face à la ferveur des Montagnards, menée par Maximilien Robespierre. Le 26 décembre, après une série de plaidoiries et de débats houleux, le verdict tombe. Louis XVI est reconnu coupable de trahison et de complot contre la nation. La question se pose alors, quelle peine méritera-t-il ? Le 15 janvier 1793, la Convention vote la condamnation de Louis XVI à la peine de mort. Le verdict est approuvé par 387 voix contre 334. Bien que la décision fasse débat, l'issue semble inéluctable. Louis XVI doit mourir. Cette sentence, bien que légale au regard de la Révolution, divise l'opinion publique et marque un tournant dans l'histoire de la monarchie française. Le 20 janvier 1793, Louis XVI est conduit à la Conciergerie où il passe sa dernière nuit. Le 21 janvier 1793, à 10h du matin, le cortège funéraire de Louis XVI prend la direction de la place de la Révolution, aujourd'hui appelée place de la Concorde. Une foule immense se presse le long des rues. Les manifestants chantent des hymnes révolutionnaires et crient des slogans. Le roi, calme et digne, monte dans la charrette, vêtu de son habit de chambre. L'homme qui fut autrefois le monarque absolu de France est désormais réduit à l'état de spectateur de son propre destin tragique. Arrivé sur la place, la guillotine. Symbole de la justice révolutionnaire l'attend.
Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais.
Un dernier regard au peuple, un dernier adieu, et la lame tombe. Louis XVI est exécuté à midi 22, mettant fin à plus de 70 ans de règne de la famille royale des Bourbons. Cet épisode se coupe donc juste avant la Grande Terreur, moment crucial de la Révolution française, que nous aborderons en premier lieu la semaine prochaine. Et vous vous en doutez donc, nous parlerons de l'empereur ultime, le plus grand général de tous les temps. J'ai nommé Napoléon Bonaparte. Ne manquez pas le prochain épisode sur RTM.